Vous écoutez
Radio 7.
Radio 7, 106.1 MHz. Allez, c'est parti pour le premier numéro du mois d'août 2025, table ronde. Chez vous à la maison, nous sommes le 1er août également pour le premier numéro. Jean de Dieu Moukadi, c'est comme ça que je m'appelle. Nous sommes déjà là parce que le décor est planté. De l'autre côté de la baie vitrée, il s'appelle Nourani Lutondila. Je suis déjà là pour qu'on décortique l'actualité de l'heure. Parce que nous sommes là pour servir le pays. Dames et messieurs, chacun doit émettre sa pierre à l'édifice. Table ronde chez vous à la maison, vous nous écoutez. Vous n'avez pas fait une erreur. Nous sommes à Kinshasa, à la fréquence 106.1 MHz. La fréquence magique toujours, comme d'hab. C'est la Radio 7, dames et messieurs, nous recevons pour ce jour Cédric Ndombele, analyste politique indépendant et internationaliste de formation. Ismaël Boukassa, porte-parole de la représentation des étudiants du Congo, qui est déjà avec nous. Professeur Dieu Sekimonyo, qui sera avec nous en ligne à partir des États-Unis d'Amérique. Et là, dans la ville de Nick. Dames et messieurs, nous sommes déjà pour décortiquer des grandes thématiques, pourquoi pas, des sous-questions qui vont découler. Nous allons parler pour ce jour du génocide congolais. Opportunité pour s'enrichir ou un chemin pour la reconnaissance des génocides en République démocratique du Congo au niveau international. Parlerons également du dialogue interne au gouvernement, d'un gouvernement, d'un changement plutôt radical. Profil, est-ce une solution pour relever la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, ingénieur, de retour dans ce studio magnifique de la Radio 7 pour Kinshasa. Cédric Ndombele, bonjour.
Bonjour, chers compatriotes, Jean de Dieu Moukadi, merci pour l'invitation. Mm-hmm. Je salue les auditeurs qui nous suivent de partout. Mm-hmm. Je crois bien nous allons passer des bons moments ensemble au travers de cette émission. Sans oublier la route, vous savez que la ville de Kinshasa, les routes sont dans des états de délabrement très avancés. Mm-hmm. Je prends la route Grand Malik DGC. C'est une route principale qu'on dit nationale numéro 1, mm-hmm. route de Matadi, qui quitte l'Ozone jusqu'à Matadi, mais c'est dans un état de délabrement très avancé.
Voilà, nous demandons aux autorités. Voilà, Cédric Ndombele, nous prenons déjà professeur Dieu Sekimonyo, on les salue également à cette étape de la présentation. Professeur docteur Dieu Sekimonyo, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes déjà en direct sur la Radio 7. Sur place au studio, nous sommes avec Cédric Ndombele, analyste politique indépendant, internationaliste de formation. Ismaël Boukassa, il est porte-parole de la représentation des étudiants du Congo. Professeur Dieu Sekimonyo, est-ce que vous allez bien?
Ça va bien. Je salue aussi le co-dialogueur, si on peut le dire, et voilà.
Merci.
Voilà, c'est réciproque. Il vous écoute. Vous restez en ligne. Nous prenons la dernière présentation. Ismaël Boukassa, bonjour.
Bonjour, Jean-Védien Moukadi Wakangoudia. Bonjour, beaucoup plus pour l'opportunité que vous m'accordez aujourd'hui. Je suis très ravi, bien que la santé ne m'a pas permis que je sois là. On s'est forcé quand même pour y être. Je vous remercie. Merci à mon co-débatteur qui est là. Merci au professeur qui est en ligne aux États-Unis. Professeur, on est ensemble.
Voilà, nous commençons notre émission, professeur Joe Sekumonyo. Nous commençons déjà avec vous. Vous avez 5 minutes. Genecost, une opportunité pour s'enrichir ou un chemin pour la reconnaissance des génocides en RDC?
Bon, Genecost, déjà, c'était une bonne initiative au début, mais il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Je l'ai dit, l'Ouganda a été condamné à la Cour internationale de justice. Il devait payer, j'oublie encore le montant de milliards. Ils ont payé 65 millions, décaissé 65 millions, mais on ne sait pas où sont passés les 65 millions. On nous annonce peut-être qu'il y a des fonds qui étaient décaissés pour un stade à Kisangani. Qu'est-ce que ça a à voir avec les victimes? Et déjà, quand on voit, il y a Monsieur Mutamba, l'ancien ministre de justice, qui est maintenant poursuivi pour d'avoir essayé de voler la deuxième tranche, et lui parle de la première tranche, ça devenait tout un drame. On pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux et on peut toujours faire mieux. On pouvait bien avoir un débat national. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là? Même, comme je l'ai dit, même au niveau du Parlement, hein, il devait avoir ce débat-là. Moi, je parle de, il faut avoir un programme psychologique pour accompagner les victimes. Parce que certains de ces cas, le traumatisme, pas certains, mais tous, c'est pas un truc à la surface. On peut avoir des programmes, surtout qui ne sont pas en RDC, le paiement direct aux victimes. C'est une façon d'indemniser, hein, d'accompagner les victimes et les familles, mais aussi d'injecter le cash direct dans l'économie locale. Je parle aussi de, c'est pourquoi pas demander à l'Ouganda un programme de bourse pour les enfants des victimes, dans les écoles ougandaises, quoi. C'est la formation d'un capital humain dont la RDC en a besoin. C'est triste ce qui est en train d'arriver. On peut bien amener des ministres à Kisangani, pleurnicher, faire des émissions, tout ça, mais c'est juste, ça devient toute une pratique, un geste politique, et les victimes sont oubliées, c'est triste.
Les victimes sont oubliées. Cédric Ndombele, vous avez la parole.
Merci, cher compatriote, pour la parole. Les génocides, il y a une différence. Parce que les génocides, en droit international, n'est pas reconnu. C'est un terme qui marie des concepts, génocide et coup. Initié par nous, les Congolais, par des mouvements, des jeunes, citoyens, tout ça, en vue que l'Ouganda puisse réparer les crimes causés en République démocratique du Congo. Parce que l'article 6 du statut de Rome, portant création de la CPI, reconnaît les concepts génocide, ne reconnaît pas les concepts génocide. Donc, si moi, personnellement, je pouvais dire en bref, on devait plus faire valoir les concepts génocides, allier place des génocides. Bien sûr que ça commence à prendre un peu de l'ampleur.
Est-ce qu'il y a des critères qui font en sorte qu'on puisse appeler certains massacres de génocide?
Tout à fait. Le génocide, par sa définition, c'est un massacre. Lorsqu'on attaque un groupe de gens, soit au village, tout ça. En bref, c'est ça la définition d'un génocide. On balaye presque une génération, c'est ce qu'on appelle génocide.
Ça y a plus de 15 millions de morts.
Tout à fait. Et deuxièmement, je dois faire un parallélisme entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. La République démocratique du Congo avait été l'Ouganda à la CIJ, qui est la Cour internationale de justice. La CPI, c'est une cour qui qui traque les individus, les criminels des guerres, des génocidaires, les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.
Donc là, c'est plus l'individualité.
Tout à fait, la CPI. Et puis la CIJ ne peut pas traquer un État. Donc il y a des dommages qu'on demande par rapport à, après les procès, lorsqu'on tranche les procès, il y a des dommages qu'un État tiers doit fournir à un autre État. Donc ce sont des conditions, c'est ce que l'Ouganda est en train de faire. Nous voyons que l'Ouganda fournit quand même pas mal d'efforts afin de payer quand même ces dommages par rapport à ces dommages causés financièrement à la République démocratique du Congo. Vous voyez même
cet argent qui n'arrive pas à la destination.
Tout à fait. Vous voyez même Mutamba est interpellé. L'argent qu'on parle de la construction, d'indemnisation, d'indemniser les victimes et de construire la prison de Kisangani qui a créé des problèmes à l'ancien ministre de la Justice, c'est l'argent payé par l'Ouganda que par rapport au génocide.
Pas des 19 millions et puis de l'autre côté, pas des 39 millions.
Tout à fait. Le débat est encore en cours, mais ce qui est vrai, l'Ouganda exécute quand même ses engagements lors de la décision de la CIJ a été prise.
Voilà. Ismaël Boukassa, vous êtes un porte-parole de la représentation des étudiants du Congo. Comment vous répondez à cette question ? Génocide un moyen de s'enrichir ou un chemin pour arriver quand même à une reconnaissance aujourd'hui des génocides, parce qu'il y a eu des milliers de morts. Ce sont les morts congolais.
Jean Dédié, nous sommes tellement tous désolés de ce qui se passe aujourd'hui, dans le sens où la commémoration des génocides devrait respecter les normes. Parce que ceux qui ont initié cette structure, c'était dans l'idée de se rappeler de ces souvenirs de vies humaines, de personnes qui sont parties, innocentes d'ailleurs. Mais voilà la simplicité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous négligeons tout. Et lorsque nous parlons aujourd'hui du génocide, pour nous, c'est un principe, c'est un concept qu'on utilise seulement pour utiliser. Mais d'ailleurs, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, si vous vous rappelez l'année passée, j'étais là présent, lorsqu'on a eu à commémorer la journée du génocide.
Qui sera d'ailleurs célébré demain, samedi.
Je vous dis, il y a eu des personnes qui ont pleuré. Y compris l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba.
C'était à Kisangani.
Pas seulement lui, moi aussi j'ai un oncle paternel qui a eu à perdre la vie dans cette histoire. Et qui doit les rétablir ? L'État bien pensé. Et aujourd'hui, les gens sont en train de s'enrichir de manière illicite. Que dire les Congolais ?
Parce que les profs ont évoqué ici, vous voyez, ministre qui sollicite l'argent pour indemniser les victimes à une réhabilitation d'un stade.
Exactement. Tout ça, c'est dit détournement pur et simple. Les fonds ont été alloués à l'indemnisation des personnes, des victimes. Mais comment l'État, notre pays, peut se donner le luxe d'utiliser, d'allouer ces fonds à d'autres fins ? Pourquoi ? Et les familles sont là. Il y a certaines familles qui sont ici à Kinshasa, je l'ai rencontré il y a 4 jours. Ils cherchent même à rencontrer le ministre de la Justice. Ils ne savent par quel canot y arriver. Et les moyens sont là. Nous suivons là à la Cour de cassation, l'autre est en train d'être poursuivi du fameux détournement. Donc tout ça, c'est parce qu'on n'arrive pas exactement à mettre en place une bonne politique pour la gestion de ces fonds. Je viens là de sur mon frère Cédric qui a parlé sur les génocides.
Vous savez, c'est Cédric Ndombele.
Vous savez, aujourd'hui c'est, je m'excuse, aujourd'hui c'est quelque chose qui bat dans les analyses sur le plan international. Et si vous revenez d'abord dans notre pays, à l'est de la République démocratique du Congo, ce qui s'est passé à Kisangani. Pas seulement à Kisangani, parce que si vous lisez exactement la lettre ouverte même des initiateurs, ils ont dit qu'ils n'ont pas parlé seulement de Kisangani, même de toutes les parties du pays qui ont été victimes de manière innocente. Et vous vous rappelez, il y a même ce qui s'est passé, l'histoire de Kamuna Sapu.
Et les gens en souffrent.
Au Kassai.
Exactement. J'en fais pas partie. Je perdis 6 membres de la famille, très chers d'ailleurs, au moment où j'étais en G3, Relations internationales. Et tout ça, c'est le rôle que ces fonds devraient jouer. Qu'est fait notre pays? Donc, c'est pour vous dire que, j'en viens de dire, nous devons maintenant recourir à certains mécanismes. Le mécanisme qui peut faire de sorte que les gens puissent se retrouver si et seulement si l'OTA ne parvient pas à rétablir le victime en leurs droits.
Merci beaucoup Ismaël Boukassa, merci beaucoup Cédric Ndombele, merci à vous professeur Joseph Mounio. Vous avez parlé d'un programme psychologique pour accompagner les victimes. Trouvez-vous que cette piste serait une solution pour que les victimes soient indemnisées?
Oui, par exemple, je vois beaucoup plus génocide, génocide, tout ça, c'est bien bon. Mais ça devrait être un programme pilote de comment les Congolais débattent, dialoguent et se guérissent de certains crimes comme celui-là. Parce que, comme on sait qu'il y a eu Kisangani, mais il y a Kamuna Sampo, il y a le problème au nord-est de la RDC maintenant. Après deux rois, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'approche qu'on fait pour les victimes qui ont, des gens qui ont subi un certain traumatisme de la guerre? Alors, c'est ce qui rend triste parce que l'idée de Jonathan Kass, je me rappelle, c'était un truc organique, naturel. Mais en fin de compte, la guérison, on a laissé aux émotions au lieu d'une approche scientifique. Parce que parler d'un génocide, ça veut dire il y a eu traumatisme. Mais comment se guérir de cette population de ce traumatisme? On n'a pas encore laissé la science s'attaquer à ce problème. Et si on n'arrive pas à démontrer, à implémenter un programme efficace et relever les données pour les jeunes de classe, comment on va établir l'approche pour les futurs génocides en RDC, pour les génocides passés, dont on n'a pas encore adressé. Même la justice sociale, on n'a pas encore implémenté. On est une société qui ne font pas de laboratoire scientifique pour guérir le traumatisme qui est une maladie en soi psychologique. Alors c'est ça que je dis, on devait avoir un programme psychologique en voyant que Genocas allait avoir cet intérêt pilote qu'on peut se dire qu'est-ce qui a réussi, qui n'a pas réussi, et après on saura automatiquement comment on va adresser les autres traumatismes de ce genre.
Voilà. Cédric Ndombele, parce que ce n'est pas encore reconnu, comment peut-on faire pour que la communauté internationale puisse aujourd'hui reconnaître ce qui s'est fait comme un génocide?
Merci pour cette préoccupation. Vous savez que la RDC doit continuer à faire des efforts parce qu'il y avait quelques individus qui ont suivi les jeunes des mouvements citoyens qui prenaient ces concepts génocide en organisant voire même des sittings à côté de la place
des évolués,
tout ça, et vers Victoire, là, les ronds-points force.
Voilà.
Ils organisaient de telles manifestations. Des fois, c'était dispersé par la police. Et aujourd'hui, l'État commence à comprendre un peu l'idéologie des génocides. Mais ce qui est plus important, l'idée que les professeurs venaient de parler là,
c'est aussi d'un programme psychologique,
c'est
pour accompagner les victimes.
Mais moi, je dirais, les gouvernements congolais doivent avoir une politique, un planning pour identifier les victimes. Vous savez que un autre jour, j'ai discuté avec un cher compatriote qui me disait, moi aussi, je suis victime à Kisangani. Mais là, il est un peu handicapé. Il m'a dit ça, il a dit, je ne sais même pas comment rencontrer les ministres de la justice, comment tout ça. Moi, je lui ai dit, ah bon? Alors qu'on a parlé de l'indemnisation de certaines victimes, de ce côté-là, de ce coin-là, c'est par là que j'ai compris qu'il y a un grand travail à faire. Il faudrait identifier d'abord les victimes.
Donc les vraies victimes.
Les vraies victimes. Mmh. On doit identifier les vraies victimes afin de les indemniser. Et ce que mon frère vient de dire sur les détournements des fonds. Mmh. Vous savez que les détournements, c'est ça la définition même. Les détournements, l'argent affecté dans un autre secteur, vous allez faire, vous allez
injecter dans un autre secteur.
Vous les virez dans un autre secteur. C'est ça les détournements d'ailleurs.
Par donc l'argent qui a été alloué pour faire telle chose, vous ne faites pas
tout
la marque dont vous avez demandé.
Tout à fait.
Et vous vous dites non, nous avons quand même acheté des téléphones,
voilà,
n'est-ce pas, pour sécuriser la contrée.
C'est
est-ce
ça
que l'argent était pour ça?
C'est ça. Par rapport à l'esprit de la définition du détournement, c'est ça d'abord. Donc on doit toujours se focaliser d'abord. L'argent concerne l'indemnisation des victimes
des atrocités,
tout ça.
Locales,
il faudrait que le gouvernement puisse montrer du sérieux quant à ces, parce que c'est une somme d'argent aussi importante, malgré que peut-être ils veulent pas que les victimes puissent avoir beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Mais comme ce sont des victimes, on doit leur rétrocéder l'argent en question.
Non, c'est-à-dire que demain, trouvez-vous pas que dans 30 secondes, que Genecos reste maintenant juste dans le vocable slogan. Quand il y a des manifestations, on en parle dès que les manifestations finissent et puis c'est tout.
Tout à fait. Nous devons faire un effort de vulgariser ces concepts parce que ce n'est même pas encore reconnu sur les plans internationaux. Si on s'est batté vraiment trop dire, et puis le lendemain, on peut l'insérer même dans les dictionnaires. On doit se battre pour que ces concepts soient reconnus même sur les plans internationaux. Parce qu'on reconnaît que les génocides dans la République démocratique du Congo doit vulgariser ces concepts afin que les compatriotes puissent l'intérioriser. Ça va permettre à ce que même les générations futures puissent continuer cette lutte pour l'indépendance totale du Congo.
Voilà, Ismaël Boukassa, avec vous, vous avez deux minutes, que faire pour que ce vocable génocide puisse avoir cette connotation internationale comme génocide, comme on parle au Rwanda, avant qu'on revienne au professeur pour entamer la question vive, pour terminer cette émission du gouvernement qui va sortir bientôt.
Déjà, les gouvernements avaient déjà procédé à l'organisation d'une table ronde qui s'était organisé du 31 mars au 3 avril ici à Kinshasa. À l'issue de ces assises, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été émises. Notamment, on avait parlé de l'encadrement éducatif. On avait parlé ici de sensibiliser, transmettre la mémoire du génocide vers les différents outils pédagogiques. Comme venait de le dire mon frère, ce vocable doit être vulgarisé, même dans des écoles.
Donc, en dehors de manifestations,
pour se rappeler,
donc, ça doit être du quotidien.
Exactement. Et aujourd'hui, le génocide est célébré. On se rappelle de ça que demain.
Et après demain.
Après demain, c'est fini. Nous allons attendre le 2 ou de l'année prochaine. Et le peuple oubliera exactement. Alors, qu'est-ce que nous devons faire à ce stade? C'est de continuer. La classe politique doit intérioriser ses programmes, le vulgariser. Dans tout le ministère, ils doivent les porter. Parce que le victime, jusqu'à aujourd'hui, souffre. Vous avez suivi mon co-débatteur qui venait de dire qu'il y a ceux qui cherchent à rencontrer le ministre de la Justice. Moi, j'ai rencontré 4 jours avant, j'ai rencontré d'autres qui cherchent à rencontrer le ministre de la Justice. Mais qu'est-ce qui empêche? Pourquoi pas mettre un programme en place qui pourrait faciliter à ce que toutes les victimes soient identifiées? Et c'est de cette façon-là que nous allons commencer à nous rappeler, de nous se souvenir de ce génocide qui a posé beaucoup de problèmes. Au-delà de ça, il y a une autre question qui va se soulever. Comment reconnaître les actes posés par l'Ouganda? Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, si vous avez suivi avant-hier les professeurs, l'ancien ministre de la Justice, Emmanuel Zolobambi, qui est en train d'insister sur le mécanisme d'une justice transitionnelle. Mmh. Et c'est de là que tout doit repartir.
Donc il faut les mécanismes
de
la justice transitionnelle.
C'est de là que tout doit repartir. Mmh. Pourquoi ? Parce que quand on nous paye ces fonds-là, à un certain moment, ça doit finir. Et on s'arrête à ça, non. Et avec les mécanismes d'une justice transitionnelle, ça va permettre d'identifier c'est quoi les problèmes. Qu'est-ce qui a fait à ce que cela puisse avoir d'impact même dans la population ? Connaître la vérité, identifier les responsables, mais pourquoi pas sanctionner ? Et c'est en faisant cela que vous allez comprendre que d'une façon ou d'une autre, ça aura de l'ampleur, la population doit s'intérioriser de l'affaire et il y aura beaucoup plus la maximisation d'ailleurs. La population pourra récupérer l'affaire, le politicien récupérera l'affaire, et le gouvernement, à son tour, fera de sorte que cette affaire puisse être portée par lui-même l'État, et c'est comme ça que les choses pourront avancer.
Professeur Dossek Monyo, que faire pour que ce vocable soit aujourd'hui reconnu au niveau international comme génocide? On en parle aussi d'ailleurs. Plus de 15 millions de morts en République démocratique du Congo. Vous avez 30 secondes avant qu'on entame le nouveau gouvernement.
Ça nous profite à quoi que ça soit reconnu au monde? Ça, c'est encore, ce sont des symboles qui n'ont pas d'impact sur ces victimes. C'est encore le sponsoring, tout ça. Et puis, même quand on parle de débat à ce sujet, ce n'est pas le gouvernement d'en faire, c'est le législateur de le faire. C'est lui qui peut passer des lois, législer sur ça. Et c'est ça où on donne beaucoup plus de pouvoir au gouvernement ou à l'exécutant. Là, il n'en a pas. Le débat devait se passer au Parlement et même les victimes devaient s'adresser à leurs représentants. Quand les victimes vont chercher un ministre, ça veut dire le mécanisme de représentativité, le rôle de son législateur, de son représentant. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa définition et dans son application. Moi, je ne trouve aucun intérêt qu'on parle de la publicité, du marketing au niveau international. Moi, je m'adresse aux vrais, pas aux vraies victimes. Aux victimes, les humains qui ont été affectés, sur quoi c'est nous tous les Congolais qui sommes victimes de cette guerre-là, de ce qui est arrivé à Kisangani, de près ou de loin. C'est ça, on doit recadrer. Le débat ne doit pas se tenir au gouvernement parce qu'il ne peut pas législer. C'est au Parlement de le faire. Les victimes doivent faire pression au Parlement pour passer des lois, pour passer des mécanismes pour que l'exécutant le fasse. Sans ça, on est en train de perdre le temps. Même des pétitions, ce qui est le contrôle citoyen, je n'ai pas encore vu un certain contrôle citoyen adressé. Ça veut dire que le citoyen congolais ne sait pas comment la Constitution lui donne le pouvoir de s'adresser, de forcer l'exécutant et le législateur de faire ce qu'il veut. Et c'est ça la tristesse dans tout cela.
Merci beaucoup, professeur Dossek Monyo. Vous restez en ligne. Cédric Ndombele, vous avez quelque chose à ajouter? Dans 30 secondes, il nous reste 20 minutes pour entamer le nouveau gouvernement.
J'allais rajouter sur ce que le professeur vient de dire. Mm-hmm. La population peut aussi voir le ministre de la Justice dans le sens, parce qu'il y a ce qu'on appelle la proposition des lois, et les projets de loi. Les projets de loi et l'émanation du gouvernement, la proposition de loi et l'émanation de l'Assemblée. Donc, le ministre de la Justice peut en faire une loi comme projet de loi amené à l'Assemblée nationale pour que les députés puissent en faire une loi et les chefs de l'État va promulguer. Donc, c'est un peu ça que j'allais aussi ajouter.
Donc, le ministre de la Justice devient comme un pont pour faciliter directement à ce que ces dires ou ces demandes de la population soient vraiment dans les mains de qui, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Voilà, nous changeons le chapitre à présent, nous prenons la question qui pose problème, les Kinois ne dorment pas, et ceux qui sont au pouvoir également, ces derniers temps, ne dorment pas, c'est le changement du gouvernement. Pensez-vous aujourd'hui que le changement radical du gouvernement en République démocratique du Congo peut relever le défi du pays? Ismaël Bokassa.
Jean-Jean Dédié, vous savez, lorsque j'ai appelé à la nouvelle changement du gouvernement, donc les gouvernements soumis Noadé, je m'ai posé plusieurs questions sur ces sujets.
Ouais.
Quelle était la motivation d'abord du chef de l'État?
Vous avez 5 minutes.
Exactement.
Ouais. Il nous reste 20 minutes. 5 minutes de conclusion.
Vous bouffez déjà mes secondes. Quelle était la motivation du chef de l'État? D'abord, ouais. C'était ça d'abord les grands soucis. C'était quoi sa motivation? Parce que celui qui est là, Souminois 1, pourquoi pas recadrer? Là, c'est d'après moi. Si c'est remanié, oui. C'est avec quels objectifs que les deuxièmes, les Souminois 2 pourra s'assigner. Parce que, à l'entrée, lorsque Souminois 1 a été investi, vous vous rappelez, il y avait beaucoup d'objectifs, des projets que celui-ci avait apporté. Je ferai ceci, je ferai cela. Et, il faut d'abord qu'on procède à une introspection, une analyse pour demander sur les 10 objectifs que je m'étais assigné, lesquels j'ai eu à satisfaire. La priorité, c'était la pacification de l'Est de la RDC. Est-ce que cela est fait?
Dans les gouvernements Souminois 2.
Dans les gouvernements Souminois 2.
Mm-hmm.
Est-ce que cela est fait?
Il y a quand même certaines cités qui ont été récupérées par le FRDC, par la même mise et la vision d'ailleurs concrète de la première ministre.
Jean Dédé, nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Essayez de demander l'autorisation à votre chef de service, descendez. Allez-y voir. On ne doit pas être à un certain moment optimiste aux mensonges. On doit être d'abord pessimiste aux vérités qui se donnent. Il faut douter d'abord de ce qui se donne comme information. Si aujourd'hui, j'avais suivi récemment le ministre de la Communication qui disait « Ah non, il y a des problèmes de réseaux sociaux qui donnent de mauvaises informations. » Mais à un certain moment, ce sont des informations qui s'avéraient être vraies. Moi, j'ai eu à parcourir 3 provinces, moi, de l'Est de la République, il y a 8 mois. J'étais en Angola, dans nos histoires dans une mission de service avec la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous n'avons pas eu à tenir nos réunions spéciales qui étaient prévues, pas parce qu'on n'arrivait pas à identifier tous les étudiants, tous les représentants des étudiants qui étaient là. On disait, ah, M23, Yoza Mokuse et Longoza Noir, Oza M23. Ça, c'est un problème. Mais la pacification devrait d'avoir être une priorité principale, priorité des priorités du gouvernement.
Donc, en Angola, vous représentez le pays où...
On était allé représenter le pays.
Vous avez parlé de 3 provinces de l'Est.
Exactement. Après avoir parcouru ces 3 provinces, c'est par là qu'on devrait se rencontrer entre les représentants des étudiants du pays des Grands Lacs.
Pour baliser les points.
Pour baliser les points. Mmh. Et je vous dis que c'est compliqué. Ça, c'est un. De deux. La pacification devrait se passer par une armée forte. Est-ce que notre armée peut faire face aujourd'hui? Si il y a la guerre, on déclare la guerre aujourd'hui.
Parce qu'on avait parlé d'infiltration, mais quand même, il y a un grand travail qui se fait.
Former, avoir une armée d'élite aujourd'hui, il faut 18 mois. 18 mois. Le chef de l'État a combien d'années au pouvoir?
Donc vous trouvez qu'il faut changer tous les membres du gouvernement?
Nous devons être vrais. Devrait être vrai. Il y a eu Jean-Pierre Bemba. Après Bemba, c'est Guy. Ils n'arrivent pas. De l'autre côté, on comprend par-ci, par-là, c'est les détruments des fonds de nos efforts de ceux qui sont au même fond en train d'éliter pour pacifier l'Est. Et les grands généraux sont là, en train de tuer la RDC en les trahissant.
Vous donnez quel pourcentage?
D'après moi, ce que j'ai eu d'ailleurs à tweeter hier, je demandais d'abord à ceux qui nous lisent de tenir compte d'abord de la compétence.
Ceux qui vous écoutent maintenant.
Voilà, de donner d'abord la priorité à ceux qui sont compétents. Tous les membres du gouvernement Souminois 1 n'étaient pas fautifs. Ils n'ont pas de mérité.
Mais on va toujours les tirer avec le système d'autorité morale.
Cette fois-ci, le chef d'État a refusé ces histoires-là. Il a refusé. Non, il a dit cette fois-ci lui-même sa cime en tant que chef de l'État garant.
Donc, il ne va pas encore recourir à ceux qui ont 50 députés.
Exactement. Là, c'est sur base de quoi? De rendement de tout un chacun.
Osa Jean-Pierre Bemba, tu n'as pas bien travaillé, out, tu seras dehors. Si y a Jean-Pierre Liao, tu n'as pas bien travaillé, out, tu seras dehors. Et c'est comme ça que nous voulons un gouvernement serré, comme l'a dit lui-même le chef de l'État, qui pourra faire face aux grands défis qui attendent la République démocratique du Congo. Là, la question de l'économie. Parce que notre économie est tellement extravertie. On n'arrive pas à se situer. La question de la sécurité. La pacification de l'Est doit, si on ne tire pas beaucoup d'attention, ça va arriver sous peu. Vous avez suivi ce qui s'est passé récemment à Dibongo aussi. Vous avez suivi ça. Quittera Est si on ne tire pas beaucoup d'attention pour venir ici à Kinshasa. Où est-ce qu'on sera?
Merci beaucoup. Cédric Mbembele. Un changement radical du gouvernement simulois. Félix Tshisekedi est en train de faire. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi décide de mettre dehors tous ses membres du gouvernement, renouveler l'équipe, on peut relever les défis.
Merci beaucoup pour cette préoccupation.
On avait 5 minutes.
Oui. Vous savez que je me demande des fois, c'est notre 50e gouvernement depuis 1960. Peut-être 5000e gouvernement. Mais nous faisons toujours les cercles vicieux. Rien n'évolue, exactement. Rien ne marche dans tous les secteurs. L'économie que nous avons bénéficié, l'économie florissante des Congo belges, que Mobutu a détruit en 72 par sa politique de l'azarianisation, lorsqu'il a nommé n'importe qui, et puis l'économie s'est effondrée. Nous avons ressenti cela vers la fin des années 80, 90, tout ça. Donc, il y a eu plusieurs gouvernements, depuis 60 jusqu'à nos jours, plusieurs premiers ministres, mais les choses ne changent toujours pas. Moi, je me demande, les gouvernements entendus aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pour répondre aux besoins des insatisfaits ou c'est pour répondre aux besoins de la population. Parce que, en voyant les choses, nous avons connu des professeurs d'université. Mon frère a parlé de la compétence. Nous avons connu des professeurs d'université.
Mais c'est le même professeur qui entoure toujours les chefs de l'État.
Nous avons connu des professeurs d'université comme étant ministres, DG, gouverneur, etc.
Les PCA.
Nous avons connu des diplômés d'État, ministres, des gradués, licenciés, des intellectuels. Mais les choses n'évoluent
toujours. Mais on va piser où?
Maintenant, la problématique, la grande problématique, c'est quoi? Il n'y a jamais eu un suivi rigoureux par rapport à la gestion de chaque département ministériel. Il n'y a jamais eu un suivi. Chaque ministre reste dans son bureau. Et deuxième chose, la faiblesse du Parlement. Le Parlement, parmi ses missions, c'est aussi contrôler l'exécutif. Je vois des fois certains députés interpellent certains ministres, mais il n'y a jamais eu sanction. Comme je suis de l'Union sacrée, on ne peut pas me sanctionner.
Non, parce qu'il est de notre obédience.
C'est ça.
Et de la loi de la majorité.
Le pays ne peut jamais évoluer comme ça. Lorsque la personne, les députés ont constaté tel ministre a détourné, tel DG a détourné, on l'interpelle. Mais vous allez voir à la fin, il n'y aura pas de sanctions protégeant les nôtres. C'est notre frère, nous sommes dans la même famille. Mais nous avons vu, une fois seulement, un ministre, je ne sais pas si de l'économie, si de la pêche, qui parlait des poissons, tout ça. Il a été viré par rapport à la situation là. Les députés l'ont viré, tout ça. Il a quitté le gouvernement un peu très tôt. Et maintenant là, nous voyons Moutamba aussi.
Il n'avait pas un soutien à
l'Assemblée nationale. C'est parce qu'il n'est pas l'Union sacrée.
Tout à fait. Ouais. Mais lorsqu'on continue à protéger certains ministres, vous savez que le pays ne peut jamais avancer. On peut encore nommer des nouveaux ministres, tout ça, mais on fera toujours les cercles vicieux. Que les chefs de l'État puissent en tenir compte, parce que c'est une phase décisive pour son mandat. Il est déjà au milieu de son mandat, son deuxième mandat.
Parce qu'il y aura élection en 2028.
Tout à fait. On assiste toujours au gouvernement éléphantex. Donc, un gouvernement de large, un gouvernement à longueur, composé de plus de 50 ministres, alors que nous voyons que le gouvernement est budgétivore et les institutions y sont les sont. Donc, alors où l'autorité budgétaire qu'est le Parlement, la part de la population, c'est quoi par rapport à l'élaboration du budget? Le budget alloué aux investissements, ça n'existe même quasiment pas.
Oui. Aux investissements.
Ça n'existe pas. Lorsqu'on vous nomme ministre de l'Agriculture, comme on dit en sciences politiques, chaque département ministériel représente un besoin de la population. On vous nomme ministre de l'Agriculture, D'ailleurs, ce secteur-là, pour moi, Cédric Ndombele, je pense que, comme dans le secteur de la santé, on nomme trop souvent des médecins, que ça soit aussi ainsi dans le ministère de l'Agriculture.
Donc, pas une personne qui a fait le ministre de l'Agriculture.
C'est ce qui tue. On nomme un agronome, une personne qui a suivi cette formation, qui maîtrise bien ce secteur.
Pour la pêche, celui-là qui a fait l'agronomie avec la psychiculture.
Exactement. Parce que nous avons plus de 80 millions d'arabes, on ne s'en sort jamais. L'agriculture, on attend ce ministre de l'Agriculture. Vous allez suivre ça dans moins de 3 jours. Ministre de l'Agriculture tel. Mais
c'est. Il a fait les statistiques.
Tout à fait. Les prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que nous avons plus de 80 millions de terres arables. Nous avons de l'eau. Nous avons. Donc, je ne sais même pas, je regrette trop souvent.
Donc, vous avez une terre riche et la population pauvre.
La population pauvre, nous devons en tenir compte. Mmh. Les gouvernements et les Fantex, ça pose, pour moi.
Donc, il faut réduire,
qu'on puisse réduire
la taille du gouvernement.
Qu'on puisse réduire la taille du gouvernement, qu'on puisse mixer certains ministères, qu'on puisse associer certains ministères. Par exemple, le ministère de la Jeunesse. À l'époque, c'était associé au ministère des Sports. Mais aujourd'hui, c'est dissocié.
Donc, sport et jeunesse.
Oui, pour satisfaire.
Donc, l'agriculture, pêche et l'élevage.
Tout à fait. Qu'on puisse associer certains ministères afin de réduire les coûts. Parce que la population a besoin des projets, a besoin des fonds alloués aux investissements afin de booster nos secteurs agricoles, pêche, élevage, tout ça. Ça peut permettre à ce que nous puissions manger parce que nous avons une économie extravertie. Jusqu'à quand on continuera toujours à dépenser des milliers de dollars pour importer, alors que nous n'avons pas une politique sur les plans internes? Tout l'argent va aux institutions. Il y a à boire et à manger.
Il y a à boire et à manger. Professeur Dio Sekmonyo, 5 minutes avec vous. Nous allons clore l'émission avec les 2 minutes qui restent, n'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup. 5 minutes pour vous et 2 minutes restent pour la conclusion.
On dit que le plus grand, si je peux exagérer, le plus grand péché qu'on fait, on parle de compétences. Quelqu'un peut être compétent mais n'a pas d'expertise. Hein. La compétence, ça veut dire c'est quelqu'un qui peut exécuter une tâche spécifique dans son ensemble d'une manière adéquate. Hein. C'est comme le nouveau gouverneur de la Banque centrale, il a la compétence, hein, il peut parler français, il peut connaît un peu les finances, mais il n'a pas d'expertise. Hein. L'expertise, c'est la capacité de gérer des situations complexes et résoudre des problèmes difficiles, hein, comme on le dit, dans un domaine spécifique. Et dans ça, on peut voir qu'est-ce que les gens ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont dit. Hein. Moi, j'aimerais bien voir un jour un DG de AFPI qui arrive là-bas. On sait déjà qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a parlé sur les fonds d'investissement. Par exemple, le ministre de Finances actuellement, si on voit son parcours, qu'est-ce qu'on va dire, hein, qu'est-ce qu'on peut dire dans son passé qu'il a dit sur les finances, sur la création de l'emploi, qu'est-ce qu'il a écrit, hein. Si vous voyez, il a été à la DGI, on parle de tout ça, ça veut dire qu'il a été compétent, mais il n'a pas l'expertise, ce n'est pas un expert dans le domaine. Alors, au lieu de chercher les compétents, on doit chercher les experts en premier lieu. Des deux, même si on change le gouvernement, il y a un gros problème qui structurel qui se pose, c'est le système de semi-présidentiel. Hein. On doit avoir une majorité issue, le Premier ministre issu de la majorité, le président règne et le Premier ministre ou la Premier ministre gouverne. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre entre l'exécutant et le législateur, qui n'amène pas un progrès au lieu de créer un conflit entre ces deux organes. Vous avez un Vital Kamerhe qui dit vous voulez créer des problèmes avec le président de la République. Au moment où il est président de l'Assemblée, c'est lui le législateur, c'est lui qui doit contrôler le législateur. Il se retrouve esclave de l'exécutant. Alors, même si on changeait, hein, on cherche des compétents, l'aide d'experts, c'est un gros problème. On a des compétents. Le ministre d'économie aujourd'hui, professeur d'économie, bien sûr, on cite le professeur, mais le professeur, c'est juste un titre académique. Hein. C'est un académicien, mais il démontre qu'il n'est pas un expert. Parce que si on peut dire, même sur la politique économique, il est primitif par ses idées comment développer la nation. Il ne fait que la compétence, hein, suivre le mécanisme qui est déjà établi correctement, au lieu de savoir que pour qu'on s'en sorte de ce gouffre, on doit créer un nouveau chemin. Il n'a pas d'expertise en soi. On applaudit. On dit professeur, oui, mais professeur en quel domaine? Je donnais l'exemple, un jour je dis aux étudiants à Kinshasa et à Lubumbashi, je dis, vous avez votre femme, elle va accoucher, vous l'amenez chez le docteur, le bébé mère. Vous vous rendez compte, c'est pas un docteur qui accouche, mais c'était un docteur en économie. À qui la faute? À qui la faute? Parce qu'on a justement dit que c'est un docteur. Il peut avoir un doctorat, n'importe quoi. C'est ça, on ne traque pas l'expertise, on suit la compétence. Alors, la seule chose, et tu sais que dans, en soi, il a prouvé qu'il était plutôt plus un jongleur politique qu'un créateur hein, de nouveaux chemins. Hein. Et on ne peut pas changer ça jusqu'à ce qu'il parte. Alors moi, je dis, ben, tout ce qu'il peut faire, le dernier virage, c'est ce qu'il peut nous laisser et essayer d'étouffer hein, l'héritage de Kabila, c'est la digitalisation du certain. Ils vont ouvrir un Congo, un Congo nouveau, je peux dire un Congo numérique, hein, un Congo qu'on va l'apprécier, qu'il aura marqué l'histoire d'une façon définitive. Et ça peut pas effacer la notion qu'on dit qu'il promet toujours, il ne réalise rien, mais au moins, on va se rappeler de lui d'une autre façon qu'on va se rappeler de lui jusqu'à présent, de celui qui a perdu des guerres, celui qui a amené Kagame, celui qui a fait ceci, même s'il était de bonne foi, mais il a ouvert le au serpent, hein, et ça on peut pas le changer. Alors il faut penser beaucoup plus à dégénération que la terre des gouvernements. On peut réduire la terre des gouvernements, mais ça va rien changer à cause du mécanisme semi-présidentiel. Est-ce qu'on devait changer la constitution? Oui, je poussais pour des raisons économiques, mais c'est le genre de pouvoir qui voulait en faire pour des raisons de conserver le pouvoir. Ils ont tout gâché. Et il n'y a plus de temps sur eux pour faire la révision de la Constitution pour des raisons économiques. Ça, c'est une mission à avoir entre nous après 2028. Mais la seule chose que Tshisekedi peut faire aussi aujourd'hui, c'est la digitalisation de services publics et ça sera son héritage. S'il arrivait aussi à le réussir, parce qu'il risque de donner à quelqu'un encore qui est compétent, mais qui n'a pas d'expertise.
Merci beaucoup. C'est votre dernier mot, 30 secondes.
Mon dernier mot, c'est j'apprécie ce genre de dialogue entre confrères et tout ça, et c'est de m'appeler professeur, tout ça, on est tous citoyens congolais.
Dieu sait
ce genre de discussion, c'est ça qui élève la qualité de la discussion nationale. Si on l'enlève seulement au gouvernement de décider ce qu'ils vont faire, on n'a pas compris notre rôle en tant que citoyens congolais. C'est nous, c'est le Congo nous appartient, et c'est à nous de parler entre experts et compétents pour pousser l'exécutif, législateur, de faire ce qu'on veut.
Merci beaucoup, Dieu c'est que Mognon. C'est comme ça que vous voulez que je vous appelle.
Oui.
Citoyen congolais. Voilà, c'est Cédric Ndombele.
Avant qu'on m'insulte, un autre professeur qui est en train de crier.
Ah, vous avez tout compris. Hein. Merci.
J'ai compris qu'on m'attaquait de loin.
Voilà. Voilà, Cédric Ndombele, 30 secondes, votre dernier mot.
Ah, mon dernier mot est que le gouvernement congolais puisse songer à l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que il y a certains jeunes qui ont des projets, mais ils ne trouvent pas, ils ne savent où trouver les financements. Je demande au prochain gouvernement, s'ils auront la bonne foi de servir la population, qu'on crée une banque de développement en République démocratique du Congo, afin de favoriser certains investissements et permettre aux gens qui ont des projets de bénéficier de certains financements. Parce que les banques commerciales existantes en République démocratique du Congo aujourd'hui, si vous allez prendre un prêt aujourd'hui, savez-vous que vous serez en difficulté de rembourser, même si vous ouvrez une grande boutique. Vous allez constater que votre boutique va sécher.
On risque même de revenir pour qu'on puisse vous rendre votre parcelle.
Le taux d'intérêt élevé, mais qu'on puisse créer une banque qui va favoriser la population avec un taux d'intérêt faible, c'est par là qu'il y aura émergence des jeunes, de la population congolaise.
Ismaël Bokassa. 30 secondes.
La jeunesse est la colonne vertébrale de la société parce qu'elle est porteuse d'avenir et représente le potentiel des transformations et des progrès. C'est là les souhaits que nous voulons, comme l'a dit le professeur et aussi mon collaborateur. Nous devons beaucoup plus investir dans la jeunesse. C'est la jeunesse qui portera ce pays dans les jours à venir. Faisons tout notre possible et que les chefs de l'État jouent aussi sa partition en laissant ses empreintes dans ce pays. Comme l'a dit le professeur, parler de la digitalisation
des services publics.
Mon collègue a parlé de l'entrepreneuriat. Pousser les jeunes à entreprendre. Moi aussi, je vais insister.
Créer des banques.
Exactement. Mettre la jeunesse devant la face du monde. Et c'est comme ça que le pays pourra progresser. Nous allons parler demain de notre langage.
Nous sommes à la fin de cette émission pour ce jour. Nous sommes vendredi 1er août 2025. Premier numéro pour le mois. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Jean-Dédier Mokadi, c'est comme ça que je m'appelle. De l'autre côté de la baie vitrée, nous avons été servis par Nourani Lutondila. Dans ce studio, nous étions avec Ismaël Boukassa. Lui est porte-parole de la représentation des étudiants du Congo. Cédric Ndombele, analyste politique indépendant et internationaliste de formation. Professeur Diosik Monion était avec nous en ligne. Merci de l'avoir suivi. On se donne un prochain rendez-vous lundi pour un autre numéro.
Vous écoutez
Radio 7
106.1 MHz.